Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Oponde.
Après les nouvelles attaques des ADF mercredi et jeudi dans la région de Benimba, où le bilan s'alourdit encore, il passe d'une vingtaine de personnes tuées à 50, portant à 90 le nombre de personnes tuées en l'espace de 8 jours. Au moins 200 enfants raflés en juin dernier par la police dans les rues de Bukavu réintègrent leur famille. La plupart de ces enfants n'avaient jamais été en rupture familiale et avaient été raflés au hasard. L'invitée de cette édition, c'est Madame Ruth Kiamabamba, chef du secteur de la Lufira dans la province du Haut-Katanga. Malgré l'arrêt des ventes minières, son entité fait face à plusieurs défis pour son développement. Bonsoir à tous. Commençons dans les territoires de Béni. Le bilan des nouvelles attaques des rebelles des ADF mercredi et jeudi à Babila Bakaiko, une localité du secteur de Benimbao, est passé d'une vingtaine de personnes tuées à 50, ce qui porte le nombre total à 90 personnes tuées en l'espace de 8 jours. Des dégâts matériels importants ont été également enregistrés, rapporte la société civile locale. André Kitenge nous fait le point.
Ces attaques des rebelles des ADF ont été perpétrées dans 3 villages de la localité de Babila Bakaiko dans le groupement de Batangimbao. Selon le président de la société civile locale, les rebelles des ADF sont devenus actifs dans la région. À l'espace de 2 jours, ils ont tué 50 personnes et le bilan s'alourdit, comme l'affirme Kinos Katuo, président de la société civile locale.
Le bilan du mercredi au jeudi 24 juillet 2024 dans les agglomérations de Mangambo, Katere, Kota Okola et passé de 19 à 50 personnes tuées par les ADF NAL. Donc, à l'intervalle de 8 jours, du 16 au 24 juillet, nous avons un bilan de 90 personnes tuées. Nous sollicitons au gouvernement congolais d'équiper, motiver et renforcer l'effectif de nos militaires FARDC sur terrain.
Cet acteur de la société civile indique que plusieurs autres corps de personnes tuées gisent encore sur le lieu du drame faute d'accessibilité dans la zone. Kinos Katuo se dit préoccupé par la situation sécuritaire dans la région. Il sollicite le renforcement des soldats des FARDC dans la région et le lancement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF. Pour l'instant, l'armée n'a pas encore donné sa version des faits. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En Ituri, au moins 15 personnes sont prises en otage par les rebelles des ADF et plus d'un millier d'agriculteurs ont abandonné leur village et activités champêtres vers le Loua, dont la chefferie des Babila Bakwanza dans le territoire de Mambasa. Ce bilan a été publié hier jeudi par la nouvelle société civile de Mambasa. Cette structure signale la migration d'une centaine de ces rebelles de la chefferie voisine de Walese Vonkutu dans les territoires d'Irumu vers deux entités coutumières à Mambasa. Conséquence, les activités économiques sont paralysées dans cette zone. Reportage d'Isaac Remoyope rendu par Martial Kizabiamungu.
Un mouvement de rebelles de ZADF estimé à plus de 100 personnes est observé depuis 2 semaines vers les chefferies de Walese Karo et Bessé dans les territoires de Mambasa. Il fuit les opérations militaires menées par les forces conjointes FARDC et armée ougandaise dans les territoires d'Irumu. Selon la nouvelle société civile, une dernière vague de ces ZADF est passée la semaine dernière dans la zone. À leur passage, ils ont déjà pris en otage au moins 15 personnes depuis le 15 juillet dernier vers Andiseli. Plusieurs villages composés essentiellement des agriculteurs sont vidés de leurs habitants, ajoute la nouvelle société civile de Mambasa. Les activités agricoles sont paralysées dans ces villages qui regroupent plus de 1000 paysans. Même dans les entités plus proches, la population craint de se rendre au champ pour ne pas tomber dans l'embuscade de ces hommes armés. La nouvelle société civile de Mambasa indique que la présence de ces rebelles sur l'axe commandant Mambasa risque de plonger plusieurs agglomérations dont le chef-lieu de la province dans une crise alimentaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'Union européenne impose des mesures restrictives à l'encontre de 9 personnes et une entité. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 26 juillet, l'Union européenne les tient pour responsables d'actes qui constituent des graves violations et abus des droits de l'homme, ainsi que du maintien du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité dans l'est de la RDC. Les personnes désignées sont soumises à une interdiction de voyager et à un gel de leurs avoirs. En outre, il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne européenne de mettre des fonds à leur disposition. Les détails avec Chakif Moulima.
L'Union européenne a répertorié deux dirigeants du M23 ARC. Il s'agit notamment de Benjamin Bonimpa, secrétaire exécutif du mouvement, et le général de brigade Justin Gachéri Moussanga. Dans la liste rendue publique figurent également le commandant adjoint Pierre-Célestin Rourakabijem et le commandant Gustave Kouboyo de FDLR Foka. En fait, d'après ce communiqué, le M23 ARC et le FDLR Foka entretiennent le conflit armé, l'instabilité et la sécurité en RDC, notamment en incitant à la violence. En outre, ils sont responsables de graves violations des droits humains, de meurtres, de violences sexuelles et d'attaques contre les civils, ainsi que de recrutement d'enfants. Figure également sur la liste le colonel Augustin Migabo des forces de défense rwandaises, RDF. Cette sanction de l'Union européenne concerne aussi Amigo Kiribijé, un commandant des ADF, en raison du niveau extrême de violence contre les civils perpétré par ce groupe armé. Enfin, l'Alliance du fleuve Congo est sanctionnée comme entité ouvertement associée à plusieurs groupes armés non gouvernementaux, dont le M23 ARC. Son leader politique, Corneille Nanga, est lui aussi sanctionné.
Autre nouvelle, 60% d'enfants raflés le mois dernier par la police dans les rues de Bukavu ont réintégré leur famille. Sur les 300 enfants hébergés au centre de transit et d'orientation du Bureau des volontariats pour l'éducation et la santé BVS, il ne reste qu'une centaine. Jean Kassami apporte un éclairage sur la situation de ces enfants.
La mairie de Bukavu avait déclenché le mois dernier une opération de rafle de tous les enfants en situation de la rue. La police a été chargée d'exécuter la tâche. Un bon matin, la police se met au travail et ramasse tous les enfants aux allures de la rue. Ils sont conduits à la mairie qui décide de solliciter l'expertise du BVS, Bureau des volontariats pour l'éducation et la santé. Pourtant, le BVS ne s'occupe que des enfants sortis des forces et groupes armés. Toutefois, le BVS accepte d'accueillir ses enfants dans son centre de transit et d'orientation. Mais après vérification au cas par cas, il s'avère que la plupart de ces enfants n'ont jamais été en rupture familiale. Ici, il s'avère que ces enfants ont été raflés au hasard. Les parents sont passés solliciter leurs enfants. Sur les 300, il en reste aujourd'hui une centaine dont les enquêtes ont révélé qu'ils sont réellement en situation de la rue. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Dans le Maniema, absence des femmes dans le gouvernement provincial Moussa Kabwankubi Moïse 1. Les femmes leaders réunies au sein de la coordination provinciale du mouvement Rien sans les femmes haussent le ton. Ces dernières informent le président de la République de la masculinité toxique qui existe au Maniema et appellent l'Assemblée provinciale à ne pas investir ce gouvernement sans les femmes. On écoute Madame Nafissa Assoumani, présidente du mouvement Rien sans les femmes, coordination provinciale du Maniema. Ses propos sont recueillis par Florence Kiza.
Son Excellence, Monsieur le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Maniema, gouvernement sans femmes, masculinité toxique. Secrétariat provincial, véritable flatterie. Nous, femmes du Maniema, exigeons avec toute énergie la nomination immédiate des femmes aux capacités requises à la représentativité significative et sacrée dans la Constitution à son article 14. Demandons à l'Assemblée provinciale de ne pas investir ce gouvernement provincial sans femmes. Pour toutes les femmes leaders du Maniema réunies ce 24 juillet 2024.
Dans la province de la Tchopo, améliorer la coordination, l'efficacité et la qualité de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur technique, technologique ainsi qu'artistique de l'espace Grand Nord. Tel est l'objectif de l'atelier organisé par le conseil d'administration de ces établissements du 24-25 juillet à l'Institut supérieur de commerce de Kisangani. Au terme de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées en matière de la gouvernance, de la mise en œuvre du système LMD, ainsi que de l'organisation du troisième cycle. Plus de précisions avec Jacques Nkonkolé.
En matière de gouvernance, les délégués des établissements d'enseignement supérieur technique, technologique et artistique de l'espace Grand Nord recommandent l'officialisation de la sous-conférence de leurs établissements. Cette structure, selon eux, devra être dirigée par le professeur Jean-Claude Essouka Alfani, directeur général de l'ISC Kisangani. Il suggère également que les nominations des membres des comités de gestion soient proposées par cet organe avant leur approbation par le conseil d'administration. Ceci pour garantir l'intégrité morale des personnes sélectionnées. Concernant la mise en œuvre du système LMD, il recommande des analyses régulières des besoins sociétaux et des offres de formation en phase avec les marchés de travail. Ceci pour identifier les compétences et les connaissances issues des demandes des employeurs. Enfin, au sujet de l'organisation du troisième cycle, la fixation des critères rigoureux de sélection pour l'inscription au master est vivement recommandée. Signalons que le président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU de la Tchopo, le professeur Jean-Faustin Guillot, qui a clôturé officiellement ses assises, a pour sa part recommandé notamment le travail en réseautage afin de résoudre un certain nombre de problèmes des établissements de Kaistadan. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La méfiance des bailleurs des fonds à l'égard des institutions publiques congolaises en raison de la corruption qui leur est associée. Ceci est l'un des problèmes qui bloque le travail du Fonds national pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, FONARED. Il le dit dans son rapport publié hier jeudi à Kinshasa, document intitulé « Le FONARED face aux défis du changement climatique et de la gouvernance en République démocratique du Congo ». La présentation a eu lieu au cours d'un forum organisé par l'Institut de recherche et Bouteli. John Chibwaboa nous en parle.
Dans ses rapports, le FONARED relève les défis auxquels il fait face. Le professeur Jolino Malukisa, qui l'a présenté, parle de l'un d'eux, la méfiance des bailleurs des fonds à l'égard des institutions congolaises.
Notre recherche a démontré clairement qu'il y a une tension entre les bailleurs et le gouvernement congolais. D'un côté, le gouvernement congolais se considère comme victime d'une certaine injustice parce que, bon, on a des tourbières qui contribuent à l'atténuation des effets du changement climatique, mais on ne gagne pas suffisamment. Mais entre-temps, les bailleurs reprochent aussi au gouvernement congolais le fait qu'il ne met pas suffisamment du sérieux dans le fonctionnement de ces institutions.
Ces rapports soulignent que la RDC pourra gagner comme d'autres pays s'il y a une grande dynamique en termes de bonne gouvernance. Le professeur Jolino Malukisa.
Il faudra lutter contre la corruption, il faudra qu'il y ait de la transparence, il faudra qu'il y ait de la rédactabilité. Voilà, c'est autour de ces questions que nous avions échangé. Et s'il y a une grande dynamique en termes de bonne gouvernance, la RDC peut gagner davantage comme les autres pays tels que le Brésil.
Selon ces mêmes rapports, un autre problème de blocage est les conflits qui opposent le ministère de l'Environnement et Développement Durable et celui des Finances pour le contrôle du comité de pilotage du FONARED.
C'est ce vendredi 26 juillet que démarrent à Paris, en France, les 33e Jeux Olympiques, un rendez-vous sportif auquel une centaine de chefs d'État du monde, dont une dizaine du continent africain, vont prendre part. Dans l'esprit de la trêve olympique, le secrétaire général des Nations Unies appelle tout le monde à déposer les armes et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. C'est ce que nous dit Jean Ganou.
Les Jeux Olympiques mobilisent plus de 10 000 athlètes masculins et féminins venus des quatre coins du monde. Pendant 2 semaines, ils vont rivaliser de talent et se produiront dans 329 épreuves pour 47 disciplines et 32 sports qui se dérouleront dans 39 sites. Pour la circonstance, plus de 5000 médailles sont disponibilisées, dont l'or, l'argent et le bronze. D'après plusieurs médias français, la cérémonie d'ouverture se fera en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une dizaine venant de l'Afrique. Cette réception sera l'occasion pour la France de délivrer un message de paix et de tolérance, affirme la même source. Pour ces Olympiades, le secrétaire général des Nations Unies a écrit, je cite, « Le monde s'est réuni à Paris pour célébrer le pouvoir du sport, pour apporter de l'espoir, pour transcender les cultures, unir les peuples, promouvoir le respect mutuel et le fair play. Ce sont également les idéaux des Nations Unies. Dans l'espoir de la trêve olympique, j'appelle tout le monde à déposer les armes, à bâtir de ponts, à encourager la solidarité et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. Je souhaite donc plein succès aux athlètes olympiques et paralympiques. Vous nous inspirez à rêver plus grand. Puisse l'âme olympique éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie. » Fin de citation. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Yeah. Sachez aussi que Brigitte Mbabi et Arnold Ipelinga sont les porte-étendards de la délégation de la République démocratique du Congo pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est vendredi 26 juillet au bord de la Seine à Paris en France. Mais comme dans toutes les délégations, celle de la RDC a respecté également la parité pour être en harmonie avec le principe édicté par le Comité international olympique à l'occasion de cette compétition. D'après une source proche de la délégation, depuis leur arrivée, les 6 athlètes congolais et l'ensemble de la délégation n'ont pas encore reçu leur prime de participation. Cela peut avoir des conséquences dans la préparation mentale pour ces athlètes qui vont entrer en compétition dans quelques jours. En natation, nous avons Aristote Ndombe Ipelanga qui sera aligné dans 3 spécialités, notamment en 50 mètres, nage libre, brasse et papillon, tandis que Brigitte Mbabi entrera en lice en boxe chez les moins de 66 kilos. Elle a décroché son billet lors des dernières qualifications à Bangkok en Thaïlande.
Actualité internationale.
Aux États-Unis d'Amérique, Kamala Harris promet de ne pas rester silencieuse sur Gaza après un entretien avec Netanyahou. L'ex-sénatrice américaine engagée dans la course à la Maison-Blanche donne le signal d'un possible changement majeur dans la politique américaine à l'égard de Gaza, promettant de ne pas rester silencieuse face aux souffrances des civils et insistant sur la nécessité de conclure un accord de paix sans tarder.
L'invité.
L'invitée de ce journal s'appelle Ruth Kiamabamba. Elle est la chef du secteur de la Lufira dans les territoires de Kambove, province du Haut-Katanga. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, elle parle de son entité et des défis auxquels la Lufira, bien que bénéficiant de la redevance minière, fait face pour son développement. Ruth Kiamabamba est au micro de Jean Gandou.
Ruth Kiamabamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Ngandou.
Comment se porte votre secteur de la Lufira?
Le secteur se porte à merveille. Et c'est un secteur qui est vraiment riche en minerais. On s'adonne aussi à l'agriculture. Il y a le lac Tchangalele qui passe par chez nous. Il y a aussi la pêche.
Est-ce qu'il y a un développement du secteur de par la présence des entreprises minières quand on sait que celle-ci paye des redevances? Il y a même la dot des 0,3%.
Bien évidemment, il y a des projets de 0,3%. Il y a les projets du cahier de charge. Il y a aussi les projet du secteur de la redevance minière.
Et qu'est-ce qui a été fait à partir de toute cette manne financière?
Il y a des écoles qui ont été construites, des hôpitaux, le bureau de la police, le bureau de perception, donc il y en a plusieurs. Mais ce sont des projets qui existent mais qui sont encore en cours.
Mais nous avons appris que le secteur de la Lufira est mal géré, c'est-à-dire que cette manne financière qui est payée par les entreprises minières ne correspond pas aux projets qui sont réalisés ou qui sont en cours de réalisation localement. Est-ce vrai?
Je n'ai que 8 mois, ce qui fait que j'ai trouvé plus de 70 contrats au secteur et ce sont des contrats en cours. J'ai trouvé une dette de 9 millions et quelques hormis la dette de la banque, ce qui fait que quand j'ai l'argent de la redevance qui rentre, il est affecté à des projets précis, il y a la banque qui soutire son argent. Mais ce qui est vrai, il y a eu cumul de contrats. Donc, un entrepreneur pouvait avoir 5 à 6 contrats. Quand tu le payes, il n'évolue pas avec le contrat, mais il préfère soutirer dans ce qu'il a eu à travailler. Puis, il y a des contrats qui n'étaient pas à la norme. Il y a des contrats qui étaient surfacturés. Il y a des entrepreneurs qu'on a eu à payer et qui n'ont pas travaillé. Donc, je suis confronté à tous ces genres de problèmes.
Mais comment comprendre que l'entité puisse avoir des dettes pendant que chaque mois, elle est payée par les entreprises minières localement implantées?
C'est la question que je me pose aussi parce que j'ai trouvé les dettes de 2021. Moi, je n'étais pas là. De 2021, 2022, 2023. Le PIA de 2023 n'a presque pas été exécuté. Les plans d'investissement annuels. Donc, c'est sur base de ça que nous travaillons au cours d'une année. Donc, c'est ça la planification. Les projets qui ont été prévus pour 2023 n'ont pas été exécutés à 100%. Donc, tout ça a fait des cumuls de dettes. Ce qui fait que depuis que je suis là, je n'ai même pas encore lancé le projet de 2024 puisque je me sens coincée avec les dettes antérieure. Ce n'est pas dans ces 8 mois où j'ai terminé la dette de 9 millions de dollars.
Et vous avez combien de groupements?
9 groupements.
Est-ce que tous ces différents groupements se retrouvent dans les projets qui ont été montés?
Non. Il y a le groupement Moulandi, Mouabé, Sangalou. Dans ces groupements-là, on n'a jamais pensé à faire quelque chose. Il n'y a que deux groupements qui ramènent la redevance minière. En tant que chef des secteurs, j'essaye toujours de faire la part de choses et de satisfaire tout le neuf groupements.
La redevance minière vous produit combien d'argent mensuellement?
Ça varie. Par moment, c'est 350 000 dollars. Par moment, 390. Le premier mois, quand j'avais commencé, on était allé jusqu'à 700 000. Et de là, on est redescendu à 500 000.
À cause de quoi?
De la baisse de la production. Puisque la redevance minière, elle est calculée sur 100%. Il y a une part qui part au pouvoir central, à la province, aux ETD, à la génération future. Récemment, on a créé même un rubrique pour effort de guerre.
Et comment arrivez-vous à faire les distinguos avec le PDL 145 territoires?
On essaie toujours de consulter, puisqu'il y a le PDL, il y a le PDL de 145 territoires, il y a le cahier de charges, il y a le 0,3%, puis il y a les projets de la redevance minière du secteur. Alors, on essaie de parcourir tous ces documents-là pour qu'on tombe sur le même projet. Si, par exemple, le projet 145 territoires a prévu de construire une école, nous, par contre, on peut construire un centre de santé, par exemple. On peut construire un centre de formation. Les 0,3% et le cahier de charges, ils financent que les villages impactés directement. Pourtant, la redevance minière, elle est là pour tout le secteur. Ce qui fait qu'il y a, par exemple, le groupement Katanga et Kiembe, ce sont des groupements qui sont plus évolués que les autres, puisqu'ils ont le projet du secteur, ils ont le projet de cahier de charges, ils ont aussi le projet de 0,3%. Pour le cahier de charges, l'argent reste à l'entreprise. L'entreprise propose des projets à la population. Par contre, eux engagent leurs entrepreneurs pour exécuter ces projets-là. Pour la dot, il y a un comité que le gouvernement national a prévu pour la gestion de cet argent-là dans toutes les entreprises.
Et donc, les secteurs ne gèrent que la redevance minière.
Oui, oui.
Ruth Kiamabamba, je vous remercie.
Merci, Monsieur Ngandou.
Ainsi prend fin ce journal coordonné par Alain Hong et mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci de l'avoir suivi.